France Guy Maroche est très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, pour une émission spéciale de l'écho de ma commune, aidée par le conseil départemental d'Eure-et-Loir. Je reçois aujourd'hui dans les studios d'Eurocast de Radio Grand Ciel, Olivier Marleix, député Les Républicains de la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie.
Je suis particulièrement ravie, je dois dire, de vous recevoir aujourd'hui. Cette émission est enregistrée le 6 décembre 2021 et nous connaissons depuis avant-hier le nom de la candidate des Républicains à la présidentielle. Valérie Pécresse s'affirme résolument de droite. A-t-elle raison ? Mais de quelle droite ? Selon vous, selon vos propres critères, légitimiste, orléaniste ou bonapartiste ?
Ah ben, il faut être les trois à la fois. Je crois qu'il n'y a que comme ça que la droite rassemble dans ce pays, c'est-à-dire en s'adressant à la fois à un électorat conservateur, électorat la droite légitimiste. Orléaniste, c'est celui qui est un peu plus moderne, un peu plus dans la vie, dans la vie des affaires, etc. Un peu plus. Et puis la droite bonapartiste, c'est une droite un peu plus populaire. La droite n'a été majoritaire dans ce pays qu'à chaque fois qu'elle a su parler aux trois droites. C'est une vieille classification, là, celle dont on parle d'un professeur de sciences politiques qui s'appelait René Raymond, qui disait qu'il y avait trois droites en France. Et la droite n'a gagné dans son histoire, n'a été majoritaire dans ce pays dans son histoire, qu'à chaque fois qu'il y avait une alliance des trois droites. Et c'est vrai d'ailleurs depuis les tout débuts de la Troisième République jusqu'à aujourd'hui sans faille. Il faut arriver à incarner les trois courants.
Mais la France est de toute façon réellement de droite actuellement.
Oui, de droite et même un peu extrême droite aussi parfois.
Vous avez été désigné par Christian Jacob pour mettre en musique le programme politique des Républicains en vue de la présidentielle, comme l'écrit Emmanuel Galliero dans Le Figaro. Pour cette, une composition musicale, vous désiriez dégager trois ou quatre engagements forts et donc une hiérarchie des priorités. Quelle est cette hiérarchie ?
Oh là là, écoutez, c'est vaste sujet. Je crois qu'il y a deux grandes problématique en ce moment qui domine, c'est quand même la question de la liberté dans notre pays, un pays où le citoyen est de plus en plus étouffé sous toutes sortes de contraintes en tout genre. Alors on l'a vécu de manière extrêmement puissante à travers les contraintes sanitaires liées à la crise du Covid.
Là, il n'y avait peut-être pas moyen de faire autrement.
Oui, il en fallait évidemment, mais en même temps, on a le sentiment que ça a été un peu l'espèce d'occasion pour l'administration d'exprimer son génie réglementaire. C'est-à-dire, ça en est donné à cœur joie. Dans les écoles, on avait des modes opératoires et des circulaires du ministère qui faisaient une centaine de pages, enfin, absolument incroyable.
Il y en a toujours de ces circulaires.
Oui, c'est absolument incroyable. Donc quand même, un vrai problème lié à la liberté dans ce pays, qui est fait de libérer un peu les énergies, de laisser les Français entreprendre, qui s'est aussi posé dans ce quinquennat, M. Macron, sur qui sont des libertés. Des libertés individuelles, avec des forces de l'ordre qui ont été hyper présentes, sollicitées contre toutes sortes de manifestations. Enfin, drôle de climat, quand même. Donc, la question de la liberté, c'est un grand sujet, et la question de la protection, en même temps. Protection, notamment, sujet qui m'est cher, de notre tissu économique, par exemple, face à des prédations d'entreprises étrangères, protection de nos frontières, protection des Français, tout simplement, avec un pays qui est le deuxième d'Europe. La France est le deuxième pays d'Europe en termes d'agression, de violence sur les personnes. C'est absolument incroyable, quand même, qu'un pays comme le nôtre soit aujourd'hui un des pays où il y a le plus de désordre face au pays. Donc, libérer, protéger, c'est sans doute deux grands sujets. Et puis, le troisième, réconcilier, parce qu'au terme de ce quinquennat, on a le sentiment que les Français sont très dressés les uns contre les autres. Et pire, on a le sentiment que c'est le, C'est par le fait du pouvoir, voire par un jeu un peu malsain du pouvoir en place qui a consisté à dresser les Français les uns contre les autres, à les opposer. Il y avait le camp du bien et le camp du mal.
J'ai relu votre ouvrage, Le Liquidateur, paru cette année chez Robert Laffont, et j'y ai retrouvé plusieurs sujets qui ont été développés par les candidats, comme la création d'un fonds d'investissement par Valérie Pécresse, la réforme du régime des retraites, les 5 000 milliards d'épargne disponibles auxquels vous faisiez allusion pourraient faciliter la création de ce fonds d'investissement.
Oui, en France, on a un vrai problème pour protéger notre tissu industriel, notamment les plus importantes de nos grandes entreprises. On a ce qu'on appelle en France un capitalisme sans capital, c'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises mais qui ont du mal à trouver des actionnaires, qui ont du mal à avoir un actionnariat stable et qui donc sont en général assez facilement opéables.
Jusqu'à Peugeot qui est obligé de faire appel aux Chinois pour pouvoir s'en sortir.
Voilà, c'est un très très bon exemple. Le jour où on veut faire le sauvetage de Peugeot, eh bien il n'y a personne en France capable d'aller réinjecter 700 millions d'euros et donc on va demander à un Chinois, Dongfeng, d'investir. Quand on vend Suez, que Suez cherche une autre possibilité que Veolia pour éviter une fusion et qu'il n'y ait plus qu'un seul acteur sur le marché de l'eau en France, on a du mal à trouver un fonds français. Les seuls fonds qu'on a, comme Ardian par exemple, qui est un fonds français, sont des gens qui restent actionnaires 4-5 ans, mais qui n'ont pas vocation à être actionnaires de long terme. Donc on a un vrai problème d'actionnariat en France. Et donc une façon d'y répondre, peut-être sans doute la seule façon d'y répondre, c'est d'inventer un système par lequel on proposerait aux Français un produit de placement. Il y a effectivement 5 000 milliards d'épargne, c'est-à-dire que les Français ne mettent pas leur argent en bourse, ils le mettent à la banque, ils le placent à la banque de manière plus précautionneuse.
Ils ont quelques craintes.
Oui.
En bourse, oui, c'est quand même extrêmement aléatoire.
Oui,
à chaque fois que je reçois une lettre d'une société qui me propose de placer, il y a en toute petite lettre en bas, attention, ce capital pourrait diminuer.
Voilà. Donc les Français sont prudents en bourse, ils ont toutes sortes de raisons de l'être. C'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser si on n'a pas beaucoup de temps et de compétences à y consacrer. Et donc le sujet, c'est comment est-ce que cet argent qui est placé à la banque, on le rend le plus utile possible pour notre économie. Donc je pense qu'il faut inventer quelque chose qui s'appellerait un fonds souverain.
Garanti par l'État.
Avec un capital garanti par l'État, puisqu'il s'agirait de toute façon de prendre des participations dans des entreprises que l'État n'aurait jamais vocation à laisser tomber tant elles sont importantes pour notre économie. Donc c'est pas très compliqué pour l'État de garantir le placement, le capital du placé. Voilà, et qui pourrait assez facilement, il faut pas aller chercher des 5 000 milliards, hein, avec 200 ou 300 milliards, on aurait le moyen de reprendre le contrôle d'une grande partie de notre tissu économique. Et après, ça change tout, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont des grands groupes étrangers, qui, quand elles rachètent une entreprise en France, ont tout de suite une vision d'amélioration très court-termiste de leur rendement. Beaucoup plus court-termiste qu'une entreprise au capital familial, par exemple. Une entreprise comme les entreprises allemandes, qui sont des entreprises dont le capital est bien souvent familial, sont des entreprises qui respectent beaucoup plus leurs salariés, qui respectent leurs sous-traitants. Chose qu'on a beaucoup moins quand on est sur des groupes qui sont obligés de rendre compte à leurs actionnaires, qui sont juste des actionnaires en bourse qui attendent un dividende à la fin d'année.
Pour les entreprises familiales, Éric Ciotti a proposé de supprimer les droits de succession, aussi d'ailleurs sur les particuliers, j'imagine. Un impôt sur la mort, comme il l'appelle, et les droits de donation. Est-ce une bonne réforme? Vous calculiez qu'en 3 générations d'entrepreneurs, l'État aurait repris la totalité du patrimoine familial.
Oui, aujourd'hui, notre impôt sur la transmission d'entreprise, il reste relativement confiscatoire, même si on a inventé, sous Nicolas Sarkozy, un dispositif Dutreil de transmission, donc d'allègement de la fiscalité. Quand les dirigeants restent, les enfants héritiers s'engagent à rester actionnaires pendant un certain temps. Cela dit, notre dispositif, il reste beaucoup plus pénalisant que dans n'importe quel autre pays européen où la fiscalité de la transmission d'entreprise a quasiment disparu. Donc il faut faire comme
c'est
dans les autres pays.
C'est difficilement acceptable quand
et
vous êtes
voilà, et se rendre compte, je pense que les Français se rendent compte aujourd'hui, sont capables de faire la différence entre l'avantage que représente en réalité pour notre économie d'avoir un actionnariat familial, une fois encore, plutôt que de s'en remettre à un capitalisme totalement financier, en bourse, aveugle, qui ne regardera que les dividendes et qui ne regardera pas le sort des salariés. Donc je pense que c'est un effort collectif qu'il faut accepter de consentir, de préserver la fiscalité des dirigeants d'entreprise lorsqu'ils héritent de l'entreprise de leurs parents.
On a vite fait d'ailleurs de qualifier ces entreprises de paternalistes.
Oui, mais en réalité, c'est une vision aujourd'hui caricaturale. Accepter quand quand vous héritez d'une grande entreprise, accepter de la diriger, c'est un choix extrêmement courageux. Ce serait tellement plus facile pour ces gens-là de vendre et d'aller profiter de leur argent au soleil sans rien faire. Donc voilà, il faut mesurer la chance que c'est d'avoir des entrepreneurs dans un pays. Il faut tout faire. Donc ça, c'est vrai pour la transmission d'entreprise. Puis on a un problème de fiscalité quand même des successions, là aussi, qui est un problème très concret de notre économie. Si on veut, l'espérance de vie a augmenté dans notre pays, a augmenté puisqu'elle commence à stagner, mais a augmenté beaucoup dans notre pays. Aujourd'hui, on hérite à plus de 70 ans. Et donc, si on veut que l'argent circule un peu plus, si on veut aider les jeunes à pouvoir s'installer plus vite dans la vie, devenir plus vite propriétaire...
Il y a le système des donations, mais les donations, c'est pas gratuit.
Et bien voilà, sans doute faut-il alléger et les successions et les systèmes de donations et revenir à ce qu'était le système...
Il y a des droits importants,
mis en place sous Nicolas Sarkozy, qui était une franchise jusqu'à 150 000 euros pour les successions et des donations qui peuvent être faites plus fréquemment sans fiscalité.
Cette disposition est toujours en
vigueur
ou pas ?
Non, François Hollande l'avait en grande partie réduite, donc il faut revenir sans doute à la version de Nicolas Sarkozy. C'est ce que nous avons prévu dans le projet des Républicains.
L'énergie, le nucléaire va-t-il redevenir un espoir comme source d'énergie décarbonée ? Va-t-on réduire aussi les parcs éoliens ? Ça, c'est une deuxième question. Le président Macron annonce la construction de nouveaux réacteurs. Vive réaction de Valérie Pécresse. Il propose 6 réacteurs EPR et des mini-centrales SMR, petits réacteurs nucléaires, Small Modular Reactor. Est-ce que c'est très intéressant comme système ? Est-ce que ça coûte moins cher ? Est-ce que ça peut être surveillé d'ailleurs peut-être ? Plus facilement.
Oui, je ne sais pas sur le SMR, en tout cas que de temps perdu. 10 ans qu'on a, pour des raisons de basse cuisine électorale, il faut que les Français quand même le sachent, quoi, pour des raisons de basse cuisine électorale, d'un accord entre le PS et les Verts en 2012 pour permettre à François Hollande d'être élu et d'avoir une majorité des alliés verts, on a fait un échange de l'accord, c'était très clairement, c'était le PS offrait des circonscriptions aux écologistes, en échange de quoi le PS s'engageait à fermer des centrales nucléaires. Non mais voilà comment on traite l'intérêt national dans ce pays, quoi. Enfin, comment certains le traitent en tout cas.
Les accords ne sont pas toujours une basse cuisine politique.
Donc, écoutez, à ce point de sordide, je crois qu'on a rarement atteint, puisque c'est vraiment on a joué avec l'intérêt national et on a joué avec la seule solution qu'on avait aujourd'hui en France, clairement, de faire la transition écologique avec une énergie zéro carbone. Quoi.
Parce qu'on parle toujours de Fukushima, mais Fukushima, c'est un problème de tsunami.
Oui, enfin c'est un problème de tsunami qui a déclenché un problème nucléaire. Mais aujourd'hui, on a une totale maîtrise, effectivement, quand même, de l'énergie, de la production nucléaire. Il n'y a pas d'accident, nucléaire. Enfin, on a 52 réacteurs dans notre pays. Il n'y a jamais eu d'incidence. Tout ça est totalement maîtrisé. Aujourd'hui, il y a l'enjeu de la sûreté qui reste un enjeu évidemment permanent. Il faut savoir continuer à améliorer, à travailler sur ces questions de sûreté. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement le déchet. Qu'on ne savait pas traiter. Mais il faut savoir quand même que pour faire une espèce de démonstration par l'absurde qu'il fallait arrêter le nucléaire, on a arrêté la recherche sur le réemploi du combustible nucléaire. Alors que tout l'enjeu, il est là. C'était le projet qu'on appelle le projet Astrid, qui permet de dire mais le déchet nucléaire de telle génération de centrales, on va l'utiliser, on va savoir le réutiliser de nouveau comme un combustible pour une nouvelle génération de centrales nucléaires, de telle sorte qu'il n'y ait quasiment plus de déchets au bout du compte. Mais il fallait continuer la recherche là-dessus. Évidemment, on l'a abandonné pour pouvoir dire non, on ne sait pas quoi faire.
On peut la reprendre.
Donc beaucoup de malhonnêteté, donc il faut relancer nos EPR, parce qu'effectivement, on a perdu du temps. Aujourd'hui, on a perdu du savoir-faire en matière de construction de centrales nucléaires. Donc, les gens qui nous ont fait perdre ce temps, pour le coup, ont fait reculer la question de la sûreté nucléaire. Regardez ce qui se passe en Chine, à Taishan, où EDF a construit des centrales nucléaires avec les Chinois. On a aujourd'hui un problème de savoir-faire parce qu'on a perdu la main, malheureusement, là où on était des leaders mondiaux. C'est vraiment extrêmement, plus que regrettable. Et il faut continuer la recherche sur le réemploi. Donc, on a perdu 10 ans, on a perdu encore 5 ans sous ce quinquennat avec M. Macron, qui seulement à la fin de son quinquennat se décide, sans doute pour ne pas laisser le sujet à la droite, pas simplement parce que voilà, on a, pendant 5 ans, le président de la République, faute de conviction, a fait de la godille sur tous les sujets, et donc là, il a décidé de ne pas laisser le sujet à la droite, et donc de s'en saisir et d'annoncer enfin la création de 6 EPR, ce qui n'est effectivement pas suffisant. Il faut savoir quand même que grâce au nucléaire, enfin, la première chose pour la France, c'est qu'on est devenu, c'est un programme lancé par le général de Gaulle en 1946, qui a fait l'objet d'un consensus politique dans notre pays, c'était issu du Conseil national de la Résistance. La France, qui était un pays qui ne produisait pas d'énergie, on avait très peu de mines de charbon, qui était donc dépendant.
On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées.
Voilà, on était dépendant en matière énergétique, et bien grâce au nucléaire, on est devenu totalement autosuffisant en matière énergétique. C'est quelque chose de formidable pour un pays de devenir, et avec une énergie propre, qui n'émet pas de carbone, qui n'est pas de CO2. On a renoncé à tout ça, c'est lamentable, et donc il faut rattraper ce temps perdu. Quant à l'éolien aujourd'hui, c'est un gâchis incroyable. On dit que le nucléaire coûte cher. Le nucléaire coûte cher, le grand carénage, la construction des EPR, ça va être une centaine de milliards, c'est un défi important. Sauf que les engagements qu'on prend en ce moment sur l'éolien nous coûtent, ou le photovoltaïque, nous coûtent encore plus cher. Là, on achète à des prix subventionnés par l'État, avec des contrats de rachat des kilowattheures, et donc la somme de ces contrats de rachat, c'est plus de 100 milliards d'engagements d'argent public, en réalité. Plus de 100 milliards d'argent qu'on va mettre pour planter des éoliennes en France qui sont produites non pas par l'industrie française cette fois, mais essentiellement par l'industrie allemande ou des panneaux photovoltaïques chinois. Donc on est en train d'utiliser l'argent du contribuable français pour subventionner l'industrie chinoise ou l'industrie allemande qui viennent produire de l'énergie dans notre pays, qu'on leur achète donc cher, et qui, lorsqu'on sera sorti de ce contrat, ils auront la capacité de nous vendre au prix qu'ils voudront, et comme on aura abandonné le nucléaire, on aura dégradé notre position, on sera contraint de racheter encore plus cher peut-être cette énergie-là que nous aurons pourtant subventionnée. Enfin, tout ça est absolument aberrant. Donc, remettons-nous vite à faire
au
du
pouvoir,
nucléaire.
Vous pourrez revenir sur tout ça?
Oui, bien sûr. Il faut arrêter de signer des contrats d'éolien pour l'avenir, en considérant qu'on a notre lot d'éoliennes, et arrêter de gâcher des sites majeurs. On est le premier pays touristique au monde, on ne va pas gâcher nos paysages avec des éoliennes.
Le socle de béton, même si on enlevait les éoliennes, ça pose quand même un problème. Aussi pour les déchets, les batteries des véhicules électriques.
Il faut penser dès maintenant au reconditionnement de ces futures batteries, effectivement. Mais là aussi, on subventionne avant, alors qu'on n'est pas capable de produire en France, quoi.
Vous dites que votre préoccupation majeure est la casse de l'industrie française. Les candidats LR ont tous parlé de réindustrialisation. Faut-il commencer par créer un ministère de l'industrie qui n'existe pas finalement ?
Oui, c'était devenu une espèce de sous-secrétariat d'État. Enfin, j'exagère, non, de secrétariat d'État. Enfin, en tout cas, c'est un positionnement hiérarchique de ce ministère montrait que ça n'avait plus beaucoup d'importance dans l'esprit de nos dirigeants ces dernières années. La dernière fois qu'il y a eu un vrai ministère de l'industrie, c'était sous Nicolas Sarkozy, on avait un ministère plein. J'espère qu'on retrouvera un grand ministère de l'industrie et de la recherche avec une politique ambitieuse qui est d'abord une politique fiscale capable de rendre notre économie et notre industrie compétitive dans la compétition mondiale. Deux, un vrai État stratège aux côtés de nos entreprises industrielles les plus stratégiques. Trois, cet État stratège, il doit mieux défendre notre intérêt national aussi au sein de l'Union européenne. Il faut sortir d'une espèce de naïveté mondialiste telle qu'on l'a connue.
Et un ministre de l'Industrie qui aura les moyens de faire ce qu'il veut.
De mener cette politique, oui, bien sûr. Et notamment, je pense que pour moi, la clé, c'est vraiment la création de cet outil capitalistique qui nous manque pour reprendre en main le contrôle de notre industrie, c'est-à-dire un fonds souverain. Je pense que sans fonds souverain, il est vain de penser qu'on arrivera réellement à protéger notre industrie à l'avenir.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Je reçois aujourd'hui, dans nos studios du Rocas, Olivier Marleix, député LR de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir. Nous passons sur la fonction publique. Dans votre livre, vous parlez de 1 million de postes de fonctionnaires créés par les intercommunautés. Pourvus de directeurs généraux, de directeurs adjoints, de directeurs de cabinet, de directeurs de communication, est-ce que dans ces organismes, Valérie Pécresse va supprimer 150 000 fonctionnaires ?
Non, on a un vrai sujet que même sur le poids de la fonction publique dans notre pays, le poids de l'argent, enfin, c'est d'abord la question de la dépense publique, hein, qui est le vrai sujet, et des prélèvements. C'est-à-dire que, on ne peut pas baisser les impôts. Si on veut recréer une industrie, il faut baisser les impôts qui pèsent sur la production. Si on veut faciliter les transmissions, il faut baisser les impôts sur ces transmissions. Mais on ne peut pas faire ça uniquement en faisant porter cet impôt sur les générations futures, comme on l'a fait depuis 5 ans avec une explosion de la dette. La dette française sous le président, j'allais dire Hollande, non, c'est Macron, mais ça ressemble tellement qu'on a du mal à voir la différence de bilan, c'est 680 milliards de dettes supplémentaires. 680 milliards de dettes supplémentaires. On va arriver à quasiment 2 900, près des 3 000 milliards de dettes à la fin de ce quinquennat. Et donc, on ne peut pas, ça, c'est quoi? C'est de l'impôt différé sur les générations futures. Donc, si on veut baisser nos prélèvements, baisser notre fiscalité dans le pays, il faut le faire en ayant le courage de réduire la dépense publique. L'essentiel de cette dépense, c'est effectivement des coûts de fonctionnement, notamment des coûts de fonctionnaires. Donc, il faut revoir la question de savoir où est-ce qu'on a besoin de fonctionnaires, d'agents publics et où est-ce qu'on en a moins besoin.
Vous parlez des 70 000 grands administrateurs rémunérés hors échelle lettre. Il y a des doublons, certainement. Pensez-vous que le commentaire aujourd'hui même de Triska Thévenot, porte-parole de la REM, lorsqu'elle affirme que les 200 000 fonctionnaires que Valérie Pécresse se propose de supprimer, ou les 150 000, vont l'être dans les écoles, dans les commissariats et à l'hôpital? Est-ce
mais évidemment, non. Je pense que le candidat qui proposerait de supprimer des emplois dans les écoles, dans les maisons de retraite ou à l'hôpital, aurait assez peu de chances d'être élu. Donc c'est absolument pas ce que propose Valérie Pécresse. À l'hôpital, on a une singularité, par exemple. C'est un très bon exemple, l'hôpital, parce que les Français savent aujourd'hui, enfin, voient, et tous les personnels qui travaillent dans les hôpitaux voient à quel point ça ne marche plus. Quand vous attendez, comme c'est le cas, comme ça peut être le cas ici à Dreux, 5 heures aux urgences, parfois 8 heures aux urgences, hein, quand les personnels eux-mêmes n'en peuvent plus au point d'alimenter un absentéisme dont ils sont par ailleurs eux-mêmes victimes, avec jusqu'à 16% d'absentéisme dans certains hôpitaux, ça a été notamment longtemps ce chiffre-là à Dreux, c'est-à-dire que quand vous avez un hôpital avec 2000 salariés, vous avez 300 personnes chaque jour qui ne sont pas là. Pourquoi ? Parce que le système est devenu épuisant pour tout le monde. Donc ça ne marche plus. Quelle est la particularité de l'hôpital français par rapport à l'hôpital allemand ? C'est le nombre d'emplois administratifs. On a un surencadrement avec un tiers des emplois qui sont des emplois de personnel administratif. Donc si on avait moins de personnel administratif et plus de personnel soignant, je pense que tout le monde s'en porterait mieux.
Et ça, on peut faire ?
Donc oui, supprimer des emplois administratifs à l'hôpital pour créer des postes de soignants supplémentaires, oui, c'est quelque chose de faisable, je suppose, de réorganiser l'hôpital. Les médecins eux-mêmes, le personnel hospitalier lui-même le réclame. Le chiffre que vous rappelez tout à l'heure de 70 000 très hauts fonctionnaires est très intéressant. C'est une curiosité que j'ai eue de poser la question au ministre de la fonction publique de savoir combien il y avait de très hauts fonctionnaires. C'est des gens qui sont extrêmement bien payés, mieux payés que les députés. Oui, parce qu'à une époque, M. Macron voulait supprimer 100 députés pour en fait sauver le pays de la ruine.
Sur 577 bon.
Oui, donc je me suis dit, non, mais surtout j'ai eu la curiosité de savoir, mais c'est bien de faire ça, de voir supprimer des députés pour faire des économies, pourquoi pas. Mais regardons d'abord l'appareil d'État. Combien il y a de gens mieux payés que les députés, qui coûtent plus cher que les députés? Ma réponse, 70 000. 70 000, c'est absolument invraisemblable. Et surtout, avant la décentralisation, il n'y en avait que 25 000. C'est-à-dire que l'État, qui gère moins de choses, a multiplié par 3 le nombre de ces très hauts fonctionnaires qui lui coûtent très cher. Absolument délirant. Et que font ces gens ? Comme ces gens sont des anciens élèves de l'ENA, enfin des gens bien formés, très intelligents, très compétents. Et qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils n'ont plus rien à administrer, ils font de la norme, ils font du texte, et donc ils créent de la complexité pour ce pays au quotidien. Quoi. Le meilleur exemple, ce sont les agences régionales de santé, les ARS. On a créé une espèce de machin qui n'existait pas il y a 20 ans, qui est devenu une strate supplémentaire entre le ministère de la Santé à Paris et nos hôpitaux dans nos départements.
Et donc, d'après vous, il n'y a pas vraiment d'utilité à la chose.
Écoutez, on a vécu très bien sans ces gens-là pendant des dizaines et des dizaines d'années. On a créé des postes de fonctionnaires supplémentaires. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est absolument stupéfiant, quoi. Enfin, on l'a vu pendant la crise du Covid. Ces gens-là ont été totalement incapables de gérer la crise en proximité, incapables de trouver des masques, incapables de trouver des blouses pour protéger les soignants, etc.
Ce sont les collectivités locales
qui l'ont fait, les présidents de région notamment qui l'ont fait, les présidents de département. Mais les ARS ne servent strictement à rien. C'est l'exemple même de cette bureaucratie qu'on a créé dans ce pays, qui crée de la norme, qui crée de la règle, qui fait perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Donc oui, il y a des postes qui peuvent être supprimés sans que ce soit douloureux pour le service public. Au contraire, ça allégera la façon de rendre le service public. Les fonctionnaires sont les premiers à être parfois découragés par leur hiérarchie tétillonne, par tous les niveaux N plus 1 qui ouvrent le parapluie. C'est absolument stupéfiant.
Sait-on combien à Bercy il y a de fonctionnaires et de doublons ?
Non, je suis incapable de vous donner ce chiffre, mais une petite anecdote. Vous savez, quand moi j'ai vécu en 2005, j'étais directeur général des services du département, du conseil départemental de Eure-et-Loir, quand on a fait le transfert des personnels et des collèges et lycées, donc des personnels de l'éducation nationale qui géraient l'entretien des collèges et des lycées. Eh bien, l'académie à Orléans, le service du ministère de l'éducation nationale, était incapable de nous donner l'effectif prêt de fonctionnaires qu'elle employait dans le département.
Mais pourtant, elle l'épée.
Elle l'épée, mais elle était incapable de nous donner un effectif précis.
Est-ce que ça ne dirait pas simplement de compter les feuilles de paye ?
Bah écoutez, non, parce que vous avez des postes en remplacement, etc. Ils étaient incapables de nous donner un effectif précis du nombre de fonctionnaires. Non, mais c'est dire à quel point ce pays est devenu courtelinesque quoi, dans sa gestion de sa fonction publique.
Il y aura une suite à notre conversation, monsieur le député, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir, chers auditeurs, et vous retrouvera pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune, qui a été enregistrée par Roland Richard et qui sera réalisée par Émilie Glory, directrice d'antenne de Radio Grand Ciel. Monsieur le député, merci d'être venu dans ce studio.
Merci de votre accueil, comme toujours.
Et à bientôt.
À bientôt.